Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, de retour après une semaine de formation. Voilà, je vous le confie. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire ce lundi, l'info du jour, Rennes Métropole cherche des volontaires pour constituer un panel citoyen sur le climat. Deux interviews, d'abord pour annoncer le prochain mardi de l'égalité sur le logement, puis pour vous donner envie d'aller voir Pling Klang, un spectacle construit autour du montage d'un meuble pour questionner le couple. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, puis une recommandation de rencontre autour des violences sexuelles et sexistes et de leur traitement médiatique. Bienvenue dans l'arène. Chaque jour, on débute l'émission d'information locale avec une info que je retiens pour vous dans l'actualité locale. Aujourd'hui, on relaie l'appel à candidature de Rennes Métropole dans le cadre de l'élaboration de son nouveau plan climat air énergie territoriale pour la période 2025-2031. La communauté d'agglomération va constituer un panel citoyen. Les 50 habitants retenus, ils se réuniront lors de 3 ateliers participatifs entre mars et mai 2024. Il y en a un en soirée et 2 ateliers organisés des samedis. Leurs réflexions à ces habitants viendront ensuite alimenter la feuille de route de Rennes Métropole pour le climat avec 2 objectifs principaux, réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis adapter le territoire aux changements déjà en cours et à venir. Le tout avec un intérêt pour les besoins des publics les plus vulnérables. Tout le monde peut participer à ce panel citoyen. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances préalables sur le sujet et Rennes Métropole espère justement que ce panel comprenne des points de vue, expérience et profils variés. Pour candidater, c'est jusqu'au jeudi 15 février, on se dépêche. Plus d'infos sur la plateforme fabriquecitoyenne.fr. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une première interview. Solène Godin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes maîtresse de conférences en géographie et co-directrice du laboratoire ESO à Rennes. 3 lettres pour espace et société. Et puis vous êtes l'invitée du prochain mardi de l'égalité de l'université Rennes 2. Un cycle de conférences donc sur le thème de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Et le prochain rendez-vous, c'est mardi 13 février à 18h au Tambour pour parler des inégalités face au logement. On dit rapidement un mot quand même sur ce laboratoire que vous redirigez. Combien de personnes on y trouve? Et surtout un mot sur l'intérêt. Interdisciplinarité, il y a plein de thèmes différents qui sont explorés par les enseignants-chercheurs.
Tout à fait, nous sommes un laboratoire donc de géographie sociale, mais plus largement un laboratoire interdisciplinaire. On retrouve des collègues géographes, aménageurs, urbanistes, sociologues, des juristes également, et de horizons et de disciplines assez diversifiées. Le point commun entre tous ces chercheurs, c'est de s'intéresser avant tout aux rapports que nourrissent aujourd'hui les sociétés à leurs espaces, au sens très large, et avec un point tout particulier d'attention sur les questions liées aux inégalités sociales, territoriales, environnementales aussi.
Et ces inégalités, on les retrouve dans l'accès au logement, le thème dont on parle aujourd'hui. On se retrouve quelques jours après la nomination d'un nouveau ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, dont l'arrivée inquiète entre autres la Fondation Abbé Pierre, fondation qui vient tout juste de publier son 29e rapport sur le mal logement. Pour faire simple, de nombreux indicateurs sont au rouge, on peut le dire comme ça.
Oui, tout à fait. Alors pour rappeler quelques indicateurs très connus qui sont tirés effectivement de ce dernier rapport, la Fondation Abbé Pierre qualifie de véritable bombe sociale aujourd'hui la question du logement. Juste pour en rappeler rapidement quelques-uns, on a 15 millions de Français aujourd'hui qui ont un problème avec le logement, 6% qui sont concernés par le mal logement. Le nombre de populations sans abri, sans domicile fixe a été multiplié par 2 en 10 ans. Bref, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont particulièrement inquiétants aujourd'hui.
J'en donne quelques autres des indicateurs. Mobilité résidentielle en baisse, hausse des taux d'intérêt et coûts des travaux, les factures d'énergie qui ont explosé et puis la raréfaction des terrains à construire, notamment dans le cadre du dispositif zéro artificialisation nette qui va être amené à se développer progressivement. Il y a aussi l'hébergement d'urgence qui est saturé. Finalement, est-ce qu'il y a des indicateurs là que j'oublie et qui sont vraiment le signe d'un pays qui peine à bien loger ses habitants? habitants. Il y a aussi des logements avec de plus en plus de personnes à l'intérieur.
Alors c'est tout le paradoxe, c'est que la France est un des pays qui a construit le plus de logements ces dernières années. On a un ratio de nombre de logements pour 1000 habitants qui est parmi le plus favorable à l'échelle de l'Union européenne et même plus largement des pays de l'OCDE. Et pour autant, la France connaît aujourd'hui une grave crise du logement. Alors ce n'est pas qu'une question de production de logements, on le voit bien ici, mais comme vous l'avez rappelé, tout un ensemble d'éléments viennent aujourd'hui complètement emboliser le secteur et avec des verrous qui sont extrêmement forts. Alors parmi lesquels, effectivement, on retrouve, et ça c'est une autre spécificité nationale, un poids très important pour les ménages dans la part du budget qu'ils accordent au logement. Et ça, à l'échelle européenne, c'est aussi une spécificité. Et de cela découle effectivement tout un ensemble de blocages, des parcours résidentiels qui empêchent aujourd'hui l'accès au logement d'une partie de la population, ou en tout cas les fragilisent beaucoup.
Cette situation dégradée d'accès au logement a des conséquences très concrètes pour de nombreux Français. On compte aujourd'hui 4,1 millions de personnes qui sont mal logées. Vous l'avez dit, un nombre record aussi de personnes qui sont à la rue. Leur nombre a doublé en 10 ans pour atteindre 330 000 personnes là en 2024. Et alors dans le quotidien, eh bien, on se retrouve avec un record d'intervention pour impayés, d'expulsion locative avec le concours des forces de l'ordre, également du nombre de demandeurs d'HLM. Quelle est la part de la responsabilité de l'État dans tout ça? Est-ce qu'on hérite d'une situation qui s'est envenimée au fil des années? Est-ce que nos dirigeants aujourd'hui ont une responsabilité claire dans cette situation?
Alors ça fait à peu près 50 ans qu'on parle aujourd'hui de crise du logement. Celle que l'on connaît actuellement, en tout cas telle qu'elle se marque depuis quelques années, est un peu différente des crises précédentes. Les crises précédentes, alors on peut penser aux premières crises du logement juste après la Seconde Guerre mondiale, qui était une crise quantitative d'urgence pour reloger après les déconstructions, les démolitions après la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a eu une période d'embellie qu'on a appelée les 30 glorieuses et aussi les 20 glorieuses du logement, où on a vu la situation progressivement se détendre avec un effort important de l'État pour construire des logements, notamment des logements sociaux, mais aussi pour favoriser et encourager l'accès à la propriété des ménages. Et depuis alors, les années 80, et tout particulièrement depuis 5-6 ans, la situation s'est très nettement dégradée. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Certaines sont conjoncturelles, liées au marché, l'évolution des taux d'intérêt qui éloigne de la possibilité d'avoir accès à la propriété une partie importante des ménages. Et puis surtout, c'est aussi, il faut le reconnaître, le retrait de l'État dans le financement et l'accompagnement de la production de logements, qu'il s'agisse notamment de logements sociaux en particulier, où les dernières réformes ont largement diminué les possibilités d'investissement et de construction de ces logements sociaux, alors que la demande, elle, augmente très fortement depuis 4-5 ans.
La situation qu'on décrit là, c'est à l'échelle nationale. Vous travaillez notamment à l'échelle de la région Bretagne. Est-ce que la dynamique est la même? On imagine des particularités territoriales, notamment liées au territoire littoral, qui est très important dans notre région. Ça a un impact sur les questions de logement.
Alors tout à fait. La région Bretagne est une région qui bénéficie d'une très forte attractivité. C'est une des premières régions en termes d'attractivité d'après les dernières statistiques de l'INSEE, ce qui en soit une bonne nouvelle. C'est porté par à la fois une création d'emplois qui est relativement dynamique et aussi une attractivité résidentielle avec des néo-arrivants, souvent aussi néo-retraités, qui bénéficient d'un certain pouvoir d'achat, et également une attractivité qui est liée au tourisme. Et on a vu se développer effectivement sur les littoraux une forte attractivité avec le développement des résidences secondaires. À peu près, si on prend l'échelle nationale, c'est 1 million de résidences secondaires sur les littoraux. Donc on voit que c'est un élément assez important. C'est à peu près le tiers des résidences secondaires qui se situent sur les littoraux. Et sur les communes bretonnes, cette situation est parfois très importante puisqu'on a 20% de communes littorales qui ont plus de résidences secondaires que de résidences principales. Donc évidemment, ça a un impact important sur les prix de l'immobilier, sur l'accès au marché, qui s'est accentué également avec le développement des plateformes d'hébergement de courte durée, type Airbnb, Abritel, qui a renchéri fortement les prix de l'immobilier sur certains territoires locaux. À cela, il faut aussi ajouter un autre élément, c'est qu'une grande partie aussi de ces territoires littoraux ne respectaient pas les 20% de la loi SRU, à peu près la moitié des communes qui étaient concernées sur les situations littorales n'atteignaient pas les 20 à 25% de logements sociaux, malgré des efforts de rattrapage importants pour certaines d'entre elles, qui essayaient depuis ces dernières années, puisque la loi SRU, c'est une loi que l'on a vu apparaître en 2000, donc elle a maintenant pas loin de 25 ans, et elle a quand même eu des effets, puisque des communes littorales ont fait un effort de construction important de résidences et de logements sociaux. C'est le cas, par exemple, de villes comme Plérin, Trégueux, Arandon ou encore Perros-Guirec.
Là, vous nous parlez plutôt de territoires touristiques. Vous travaillez notamment en ce moment sur du côté de Quiberon, mais il y a d'autres profils et puis d'autres types d'accès au logement. Vous avez récemment travaillé sur le cas de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, où là, vous avez observé de nouveaux mécanismes de paupérisation ainsi que de nouvelles vulnérabilités résidentielles. Ça veut dire quoi ? Est-ce que finalement il y a un lien entre les deux, entre ce qu'on voit à Quiberon et ce qui se passe à Guingamp ?
Oui, tout à fait. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que, alors que le marché est très tendu, le logement aujourd'hui révèle et creuse les inégalités sociales et territoriales. Sur la situation de Guingamp, donc c'est un territoire qui est moins attractif et alors, on connaît quand même une évolution démographique positive, mais beaucoup moins attractive que le littoral. Mais ce que l'on a surtout vu se développer au travers de notre étude sur le mal-logement, ce sont de nouvelles vulnérabilités résidentielles, avec des ménages qui parvenaient à avoir accès à la propriété, puisqu'on est sur des territoires où les possibilités d'accès, les prix de l'immobilier sont aussi beaucoup moins importants. Mais pour autant, ce statut résidentiel d'être propriétaire ne préserve pas de forme de fragilité, de vulnérabilité. Et on a vu des néo-propriétaires, souvent des jeunes ménages qui souhaitaient s'installer dans ces territoires où les prix étaient moins élevés, se retrouver dans des passoires énergétiques, thermiques, quasiment sans solution, parce que les solutions sont difficiles et très coûteuses, malgré des aides de l'État qui peuvent pourtant être importantes. Mais ça ne suffit pas, et l'accompagnement social nécessaire n'est pas toujours au rendez-vous, parce qu'il est lui aussi coûteux et long à mettre en place.
À partir de ce constat, si on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer la situation qui aujourd'hui inquiète beaucoup, notamment les associations comme la Fondation Abbé Pierre, quelles actions peuvent être conduites pour le moment sur les annonces là dans le dossier logement? Dans son dernier discours, Gabriel Attal évoquait l'idée d'inclure les logements intermédiaires dans le calcul des 25% de logements sociaux pour essayer d'atteindre ces quotas-là. Qu'est-ce qu'on en fait ça? Et sur quoi il faudrait se diriger comme solution?
Bon, alors je ne peux que partager les très vives inquiétudes du monde du logement actuellement, à plusieurs niveaux. Déjà, la question des logements sociaux, avec effectivement un déficit depuis plusieurs années, c'est-à-dire que depuis à peu près 2018, on a construit beaucoup moins de logements sociaux. Or, ce déficit, il se cumule. Quand on construit moins de logements sociaux pendant une année, deux années, trois années, c'est cumulatif, et ça explique évidemment les situations très compliquées que l'on retrouve aujourd'hui. Donc, dans les annonces qui ont été faites, il y a très peu d'éléments qui vont dans ce sens de construire davantage de logements sociaux. Et derrière le terme même de logement social, il y a toute une diversité. C'est plus de 65% de la population qui est dans les plafonds du logement social. Donc le logement social ne s'adresse pas qu'aux personnes les plus pauvres, peut s'adresser aussi aux classes moyennes, avec une pression extrêmement importante. Si on prend Rennes, par exemple, c'est 30 000 demandes de logements sociaux. On considère qu'il y a une demande satisfaite pour 3,5 demandes. Donc il y a une pression, il y a une demande qui est très très forte aujourd'hui sur le logement social, qui est en train aussi de changer d'image, parce que le logement social d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, c'est plus l'image des bars, des tours, des quartiers dégradés. Le logement social qu'on construit aujourd'hui, il est qualitatif, et donc c'est très important de le redire.
Donc on comprend qu'il y a la question de construire plus de logements sociaux, mais aussi de mieux le flécher vers les publics qui en ont le plus besoin. Je lis aussi qu'il faudrait mieux diffuser la culture du logement chez les élus, à défaut d'avoir une solution magique, au moins d'aborder le sujet et de lancer des discussions, de créer des liens entre des partenaires qui se connaissent peut-être pas encore pour infuser de nouvelles idées.
Oui, avec l'idée peut-être aussi de détechniciser cette question qui fait peur, parce que dès qu'on parle du logement, on parle de chiffres, on parle de sigles, on parle d'acronymes, on parle aussi de réglementations très contraignantes. Et la plupart du temps, les élus, notamment des petites collectivités, des villes petites et moyennes, n'ont pas nécessairement l'ingénierie pour les accompagner sur ces sujets très techniques. C'est en plus un sujet souvent très ingrat, puisqu'il faut du temps pour mettre en place une politique locale de l'habitat et du logement. Il faut qu'il y ait donc un certain courage politique qui dépasse souvent la temporalité d'un mandat. C'est donc un enjeu important que d'essayer d'accompagner au mieux ces élus pour essayer de réfléchir à des stratégies qui vont de toute manière dépendre de plus en plus aujourd'hui des échelles locales ou en tout cas intercommunales.
Et alors sur le sujet des résidences secondaires et des logements en location de courte durée type Airbnb, c'est encore une solution difficile à envisager pour les élus. Certains y sont allés sur des territoires particulièrement en tension ici en Bretagne. Est-ce qu'il faut plus d'encadrement de ce côté-là ?
Alors on continue effectivement à réfléchir aux différentes possibilités. Certains territoires sont plus avancés, on peut penser au Pays Basque où ils ont mis en place des politiques très suivies, parfois coercitives, ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire que pour un logement mis en location de courte durée, on demande au propriétaire d'en présenter un autre sur les mêmes configurations avec un bail cette fois de longue durée. Donc ce sont évidemment des freins pour l'investissement sur ce type de biens. Il y a également la question de la fiscalité qui ne résout pas tout. On a bien vu que même les communes qui mettent en place une taxe sur les résidences secondaires, ça reste finalement très résiduel. Ça ne limite pas le phénomène. On parle quand même de communes qui parfois ont plus de 60% de leur parc de logements qui sont des résidences secondaires. Et puis un dernier frein politique qui est très important, puisqu'on rappelle que les résidences secondaires ont la possibilité de voter s'ils en font la demande au sein de la commune, et donc évidemment pour certaines communes où les résidences secondaires peuvent être potentiellement majoritaires, les élus sont évidemment parfois un peu frileux à appliquer les possibilités de réglementation.
Ici, sur le territoire de Rennes Métropole, les élus ont fait le choix de développer le bail réel solidaire. En gros, la collectivité reste propriétaire du sol, ce qui rend le logement plus accessible en termes de coût d'achat pour les propriétaires. Ça, c'est une bonne idée. Ça se développe sur le territoire ailleurs qu'à Rennes Métropole ?
Alors c'est développé effectivement dans différents territoires. C'est aujourd'hui une des solutions pour pouvoir permettre de faire baisser les prix de l'accès à la propriété à court terme. Et c'est une solution qui présente aussi un avantage. On apprend des erreurs et des expériences précédentes parce qu'elle permet finalement d'avoir une maîtrise des prix de l'immobilier sur le moyen ou long terme. Et pas seulement avec une possibilité de limiter le coût d'accès à l'immobilier, le coût de l'achat une fois, mais du coup ça permet aussi de limiter le prix à la revente et donc de pouvoir maintenir sur du moyen long terme des prix de l'immobilier qui sont un peu plus encadrés. Et c'est un dispositif qui est particulièrement développé et demandé, souvent porté par des établissements publics fonciers ou par des organismes fonciers solidaires dont les territoires qui sont les plus en tension essaient de se saisir. Donc c'est un mécanisme qui pour l'instant semble attractif. Après on ne sait pas à moyen terme quelle sera la réception sociale aussi d'un dispositif où on reste aujourd'hui attaché à la propriété intégrale et du sol également.
Quelques questions pour terminer, Solène Godin, sur le lien entre le logement et les inégalités sociales, puisque ne pas avoir de logement digne, c'est un déclencheur d'autres inégalités. Ceux qui en pâtissent le plus, évidemment, ce sont les publics les plus précaires, et parmi eux, les jeunes. C'est le public aujourd'hui dont on parle, et on le voit à chaque rentrée ici à Rennes, avec un manque de logements étudiants, notamment.
C'est véritablement l'urgence sur la question des jeunes. À tout niveau, les jeunes ont beaucoup moins accès à la propriété aujourd'hui que ce n'était le cas à la fin des années 60.
C'est assez fou le chiffre d'ailleurs, c'est 4 fois moins qu'en 1968.
Alors évidemment, il y a la question aussi des études qui sont plus longues. Tout cela rentre évidemment dans ces réflexions et dans ces calculs. Mais on voit que l'éloignement de l'accès à la propriété concerne les jeunes, concerne évidemment les ménages aussi qui sont avec les revenus les moins importants, mais même sur les ouvriers avaient deux fois plus accès à la propriété en 1980 qu'aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a un clivage qui est très fort entre ceux qui peuvent aujourd'hui avoir accès à la propriété et ceux qui restent aux portes de cet accès à la propriété. Et ce clivage est aussi très largement générationnel, avec une part des propriétaires qui majoritairement sont des propriétaires plus âgés. Et ce que l'on ne dit pas derrière ce statut de propriétaire, c'est qu'il y a aussi ceux qui sont propriétaires sans avoir encore de prêts en cours. Ce qui, évidemment, est une réflexion à avoir peut-être sur les enjeux de solidarité que l'on peut retrouver derrière cela. Donc, le capital est devenu, et le capital immobilier en particulier, un véritable élément aujourd'hui d'inégalité sociale. Ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Et sur la question de l'accès des jeunes, on peut penser à des solutions qui seraient des formes de garantie de loyer. On peut penser effectivement à différents éléments pour essayer d'aider les jeunes à pouvoir se loger dans de meilleures conditions. Le logement social en fait partie, mais ce n'est pas l'unique solution.
Qui dépendent souvent de la situation de leurs propres parents au moment de déposer des dossiers pour avoir accès au logement, en tout cas quand ils sont étudiants. Au-delà du facteur âge, il y a enfin le facteur genre qui joue aussi, puisque les femmes souffrent d'une vulnérabilité supplémentaire face au logement, avec ce public des familles monoparentales, souvent assumées par des mères qui ont du mal à accéder au logement.
Tout à fait. Alors même si ce public sait parfois être priorisé, hein, dans le cadre de demandes de logements sociaux en particulier, mais pas seulement, il leur incombe très souvent, pour les personnes et souvent femmes à charge de famille, de trouver des logements qui sont plus coûteux pour pouvoir élever leur enfant, pour pouvoir retrouver aussi un logement après une rupture familiale et parfois ça peut être aussi professionnel. Donc on retrouve là tous les facteurs de vulnérabilité qui vont venir s'incarner finalement derrière la question du logement. Et les femmes font partie de ce public vulnérable, mais pour ce que j'ai plus analysé, c'est avant tout la question de l'âge qui apparaît vraiment comme l'inégalité fondamentale aujourd'hui.
Ces sujets, ils seront évoqués plus dans le détail lors du prochain mardi de l'égalité le 13 février à 18h. Ça se passe au Tambour sur le campus de l'université Rennes 2. Et le sujet évoqué avec vous, Solène Godin, ce sont les inégalités face au logement. On le redit, vous êtes maîtresse de conférences en géographie et co-directrice du laboratoire ESO pour Espace et Société. Ce rendez-vous là du mardi de l'égalité, il est gratuit et à revoir si vous le manquez en replay sur le site lairdu.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Que la biche soit en moi avec le vol de chaque flèche chasseresse. Dans les vergers des bois, telle la chasseresse que je me considère, je me sens inspirée d'un portrait sans comparaison. C'est la source de silence et de douceur. Si j'ai toujours les yeux de biche, je me montrerai lucide et charitable à bramer au clair de lune dans cette lisière paisible. Sans que la nuit soit toujours blanche, quel qu'en soit le sourire rayonnant, je laisse sortir la biche qui est en moi. Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Il fait jour lumineux. Mais avant tout, la nature obtient la sérénité des êtres. Certains ont une grâce à faire de la biche pour moi une offrande et d'autres aucune. Moi qui ai pour ce rôle soutenant au cœur qui scintille, je continue de toucher la vie au ciel. Et pour mettre ma témérité habile, je laisse sortir la biche qui est en moi. Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Que la biche soit en moi.
De chaque flèche chasseresse.
Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Grâce à un astre lunaire et argenté, pour un nouveau jour aussi, la biche est en moi et moi bien portée d'arc et d'un carquois. Que la biche soit en moi avec le vol de chaque flèche chasseresse. Je laisse sortir la biche qui est en moi. Que la biche soit en moi.
Avec le vol de chaque flèche chasseresse.
Que
Que la biche soit en moi par Rebecca Warrior et Claire Ottaway. C'était une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à la radio, et que vous pouvez retrouver ce titre sur un EP dans le spectre. C'est son titre et c'est sorti en décembre chez Warrior Records. La première collaboration, en tout cas sur un album, de la musicienne Rebecca Warrior, ex Mansfield Tia et Sexy Sushi, avec Claire Ottaway d'Astéréotypie et Omega du projet Chevalier sur Surprise, une rencontre qui en fait fait suite à un live qui a été imaginé pour l'événement d'une association Future Composée qui met les artistes autistes à l'honneur. Ça, c'était en 2023. Vous écoutez La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, ou peut-être en ligne sur canalb.fr. J'espère que vous m'entendez bien. Nous avons eu quelques soucis de diffusion qui, je l'espère, sont réglés pour de bon. Canalb.fr, c'est le site où, en tout cas, vous pouvez retrouver les émissions en direct, mais aussi en podcast. Des émissions réalisées par des salariés, mais aussi par des bénévoles, et ils sont nombreux. Allez, on continue cette émission avec une seconde interview au chapitre culture. Étienne Manceau, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous présente. À une époque, vous avez été étudiant à Rennes. C'est vrai ça, c'est cette anecdote ?
Ouais, ouais. Bah, c'est pas une anecdote. Hein. J'ai vraiment été étudiant à Rennes. Ouais, j'ai fait 3 ans de lycée à Châteaubriant. Et après, j'ai fait... 3 ans d'études à Beaulieu.
Mais si aujourd'hui on vous reçoit là pour un échange, c'est que depuis vous êtes devenu artiste circassien, comédien, manipulateur, auteur et cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Sas Kripa. Ça c'est ce qu'on lit en ligne pour vous présenter. On vous retrouvera face au public avec Pling Klang mardi 13 et mercredi 14 février à 19h30 dans la salle des mariages de l'hôtel de ville ici à Rennes. Et puis le mois prochain du côté d'Edé Bazouge, on va y revenir. On commence peut-être par présenter votre compagnon de scène sur ce projet, Mathieu Despoisses. Comment vous vous êtes rencontrés autour de ce spectacle Pling Klang ?
Eh bien, Mathieu, il est sorti du CNAC, l'école nationale du cirque qui se trouve à Châlons, en 2003. Et moi, je suis sorti de l'école de Toulouse, l'école de cirque également, qui, voilà, de la même année. Et on s'est rencontrés les années suivantes de manière aléatoire sur des festivals et dans des endroits où on était programmés avec nos compagnies respectives. Et puis voilà, on a fait connaissance et petit à petit, on a eu envie de travailler ensemble au plateau.
On aime ses enfants, son conjoint et la saucisse avec le même mot. J'ai trouvé ces mots-là comme point de départ sur la présentation du projet, ce qui m'a bien fait rire. Et c'est vrai, l'amour est une notion plurielle et floue. Comment vous en êtes arrivé à vouloir explorer donc ce sujet de l'amour, du couple, le tout à travers le montage d'un meuble ?
Eh bien, le fond du projet, donc... L'amour, les questions d'amour, de couple, ça part vraiment des discussions qu'on avait de manière très naturelle et spontanée à la vie. Et puis voilà, c'est quelque chose qui nous a toujours interrogés respectivement. Et on a, au fur et à mesure que l'envie grandissait de travailler ensemble, on a commencé à se poser la question de ce dont on avait envie de parler au plateau. Et puis, naturellement, on s'est tourné vers les choses qui nous intéressaient et qui nous questionnaient hors plateau.
Et vous allez donc vous atteler sur scène à monter l'iconique meuble de rangement Kallax en 4x2 cases, laqué blanc, on se l'imagine bien là en tête. Et au fil des étapes du bricolage, les langues vont se délier. Vous avez été, je crois, pas mal inspiré par une bande dessinée de Fab Caro, qu'on peut d'ailleurs recommander aux auditeurs. S'ils ne l'ont pas lu, je peux vous laisser en dire un mot.
Ouais, ça fait partie des points de départ, la BD de Fab Caro. C'est des petites planches sur une planche par page qui met en scène des couples.
Mmh. Eh, il est délicieux ton café, ma chérie. Hein. Et puis quel bonheur de le boire face à toi comme ça chaque matin. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce visage là, pas coiffé, pas maquillé, c'est merveilleux.
Bernard, t'es chiant. T'es toujours optimiste, toujours content de tout. En fait, je réalise que je m'emmerde avec toi.
Tu vois, c'est ça que j'aime chez nous. C'est le fait qu'on se dise tout.
Ça, c'est un extrait de l'adaptation de Moins qu'hier, plus que demain de Fab Caro, produite par Canal+, si vous souhaitez y jeter un œil.
Le ton, la rythmique, le dessin, les silences aussi, nous ont beaucoup inspirés.
Moins qu'hier, plus que demain, ouais. Une bande dessinée qui est sortie en 2018 avec des conversations du quotidien, mais qui tourne vite à l'absurde à chaque fois.
Ouais, c'est ça, ouais. Dans le spectacle, effectivement, on monte un meuble Ikea, et lorsqu'on pitch le spectacle aux gens, il y a tout de suite une image, il y a une projection de ce qui peut se passer dans le spectacle avec deux hommes qui montent un meuble et cette situation assez quotidienne que beaucoup de gens ont traversée. Et nous, on a fait le choix de pas du tout aller à l'endroit attendu par les spectateurs et les spectatrices. Je vous en dis pas plus, mais...
On peut quand même dire qu'il y a un dispositif assez particulier qui a été imaginé en lien avec un ébéniste, c'est ça, et qui va faire que le public va être très proche de vous physiquement.
Ouais, donc c'est un spectacle qui se joue pour 90 personnes. Nous, on joue dans un couloir central et de chaque côté de nous, il y a 45 personnes. Donc 2 fois 45 personnes qui sont disposées sur chaque rang. Sur 3 rangées à 3 hauteurs différentes, donc il y a une visibilité qui est très bonne pour les spectateurs et les spectatrices, et il y a une proximité qui permet vraiment le ton de la confidence. Nous, on n'est pas sonorisé au niveau de la voix, donc le fond de ce qu'on raconte est très personnel et très intime, et la manière de le recevoir est également en adéquation avec ce principe de confidence et de proximité.
Votre propos, il s'est construit avec des lectures, on l'a dit, avec vos expériences, un peu sur le mode de l'autofiction, et puis à travers des récits que vous avez collectés auprès de vos proches. Ça leur a inspiré quoi, le sujet du couple? Un truc plutôt mignon, un truc profond, carrément mielleux, ou voire à réinventer? Ça fait naître quels échanges?
C'est comme la BD de Fab Caro, c'est une idée de départ de collecter des témoignages de gens proches ou moins proches. Et puis au fur et à mesure du processus de création, on s'est aperçu que les discours qui nous appartenaient et qui étaient relatifs à des expériences qu'on a traversées étaient beaucoup plus percutants dans le sens et dans la manière de l'aborder sur scène. Donc assez rapidement, on a écarté cette piste de collecte de témoignages et on s'est vraiment concentré sur tout ce qui avait fait notre parcours d'homme, homme de 45 ans aujourd'hui, tous les deux, Mathieu et moi, et qui faisait que voilà, il s'agit que de choses qu'on a traversées et Mathieu et moi.
Et on vous retrouvera donc dans vos rôles d'acrobate et de jongleur. Ça fait peut-être le lien avec l'équilibre, parfois difficile à trouver sur le sujet de l'amour.
Alors Mathieu, lui, il a une formation d'acrobate. Moi, j'ai plus une formation de jongleur. Donc il y a quand même un rapport à l'agrès qui est très inspiré de la manière dont on peut rechercher avec des agrès de cirque. Après, quelqu'un qui ne sait pas quelle formation on a reçue avec Mathieu, c'est assez indescriptible l'endroit où on se trouve. Nous, on est très fervents des spectacles sans étiquette. Et donc là, il y a beaucoup d'influences et d'inspirations circassiennes, mais aussi d'autres endroits. Et effectivement, la notion d'équilibre qui est assez proche de ce que ça peut vouloir dire que d'être en couple, la notion de défi aussi. Voilà, on a trouvé que la construction d'un meuble en kit, la métaphore du défi, de l'équilibre, était proche de ce dont on avait envie de parler.
Alors le lieu retenu par les tombées de la nuit, en tout cas pour les dates rennaises des 13 et 14 février, il a été parfaitement choisi puisqu'il s'agit de la salle des mariages de l'hôtel de ville ici à Rennes. La date aussi bien choisie puisque ça tombe le jour de la Saint-Valentin. Mais on le dit aux auditeurs, pour ces deux dates-là, ça affiche complet. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous retrouve le mois prochain, cette fois du côté d'Edé Bazouge, tout près de Rennes, au Théâtre de Poche. Donc cette fois pour 3 dates.
Ouais, c'est ça. 3 dates au Théâtre de Poche. C'est un endroit dans lequel j'ai déjà joué, moi, d'autres propositions. Et puis, étant originaire de Dinan, voilà, moi, je suis touché de venir jouer par ici.
Et alors, sur ce spectacle, Pling Klang, il en est rendu où, là, dans son chemin, face au public? Il y a encore beaucoup de dates à venir
Alors, les premières du spectacle ont eu lieu les 6 et 7 octobre dernier. Et on a fait les premières à Elbeuf, c'est un pôle national cirque. On a fait depuis 14 représentations, donc la représentation du 13 février à Rennes, c'est la 15e. Et puis sur la fin de la saison, jusqu'au mois de juin, il doit encore rester 25 représentations, je pense. Donc on est en tout début de vie du projet.
Est-ce que vous avez déjà des retours sur ce que ça fait naître chez les spectateurs ?
Ouais, on a des retours très positifs du projet, que ce soit au niveau de l'accueil public ou de l'accueil des professionnels. Et c'est assez intéressant parce que nous, on se place à l'endroit de la confidence et assez rapidement, quand on prolonge le moment de spectacle dans des discussions plutôt informelles avec les spectateurs et spectatrices qui ont assisté au spectacle, les langues se délient assez simplement et c'est chouette, on arrive à avoir des échanges peu communs et intéressants, assez intimes aussi.
Et enfin, plink-clang, c'est quoi ? C'est le bruit du meuble Ikea qui se casse la gueule ?
Non, plink-clang, c'est un... On avait dans l'idée, quand on a commencé à travailler sur le projet, qu'il y a une partie de ping-pong. Donc ça, c'est resté. Donc on a cherché un mot qui se rapprochait du nom d'un meuble en kit de la fameuse marque suédoise, et puis un mot qui faisait en même temps écho au ping-pong. Donc voilà, c'est le mot ping-pong suédoisifié, comme on dit.
Étienne Monceau, on vous retrouvera donc sur scène avec Mathieu Despoises pour Pling Clang le mardi 13 et le mercredi 14 février à Rennes. Ça affiche complet, sauf si certaines places se libéraient au dernier moment. Heureusement, on vous retrouve le mois prochain du 14 au 16 mars au Théâtre de Poche à Aidé-Bazouges. C'est un spectacle à voir à partir de 10 ans et pour les dates à Aidé-Bazouges, les tarifs vont de la gratuité à 14 euros. Plus d'infos en ligne sur le site théâtre-de-poche.com. Merci beaucoup, Étienne.
Avec plaisir.
Les histoires d'amour finissent mal en général.
évidemment les histoires d'Ad et Rita Mitsuko, un morceau de 1986 qu'on retrouve sur un album, The No Comprendo, sorti donc cette année-là. C'était le deuxième album du duo formé par Catherine Ringer et Fred Chichin et que vous venez d'entendre sur Canal B. C'était le choix musical d'Étienne Manceau, artiste circassien qu'on vient d'entendre dans une interview pour annoncer les représentations du spectacle Pling Klang. Et avant de passer à la recommandation du jour, un mot sur cette newsletter, le courrier de l'arène. Chaque vendredi, j'envoie aux abonnés un aperçu des sujets qu'on a évoqués au cours de la semaine avec des focus sur les reportages ou interviews qui méritent d'être réécoutés. Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, rien de plus simple, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr ou alors retrouver le formulaire d'inscription directement en ligne sur notre site internet et vous êtes bientôt 50 à suivre cette newsletter Le Courrier de la Reine. Merci à vous. Et on va terminer cette émission, la première de la semaine, avec la recommandation du jour. C'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre près de chez vous. Parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast. Aujourd'hui, on annonce un café citoyen initié par le Club de la Presse de Rennes et de Bretagne. Rendez-vous au Café des Champs Libres mercredi 14 février à 18h30 pour s'interroger sur le rôle des médias dans les affaires de violences sexuelles et sexistes. Alors que Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle, mais on pourrait en citer d'autres, Benoît Jacquot, Gérard Miller, Jacques Doyon, Seb Melia ou encore Coé, lors de ces affaires, victimes, accusés, avocats et militants s'affrontent par tribunes interposées, les médias relaient les prises de position de ces juges improvisés qui ne respectent ni la présomption d'innocence ni la parole des victimes. Alors là, je suis en train de vous lire la présentation. La formulation me paraît un peu maladroite, car on le redit, dénoncer des actes en tant que victime peut se faire sans dénier la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé pendant toute la procédure judiciaire. Mais bref, faut-il passer par les médias pour obtenir justice? Quel rôle peuvent et doivent jouer les médias dans les affaires de violences sexuelles? Ça, ce sont des questions importantes, intéressantes, à se poser mercredi dès 18h30 au Café des Champs Libres, dans le cadre d'un débat qui est ouvert à tous et à toutes et organisé en fait dans le cadre des cafés citoyens en partenariat avec les Champs Libres. Pour plus d'infos, il y a le site leschampslibres.fr et c'est gratuit. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.